France Culture.
Extrait du film The Jesus Factor de Rane Aronson.
Décembre 1999.
Débat entre les candidats à l'investiture républicaine pour les élections présidentielles américaines. À la question « À quel philosophe ou penseur politique vous identifiez-vous le plus ?» Steve Forbes répond « John Locke, Alan Keyes, les pères fondateurs. » Et George W. Bush, le Christ, parce qu'il a changé mon cœur.
Catholique de France, la tentation radicale. Un documentaire de Isabelle de Gomain et Anne Fleury. Troisième épisode, le laboratoire américain.
On election night, his supporters cheered to his victory song. It was called God Blessed Texas.
Pour comprendre la politique intérieure comme internationale de Donald Trump, il ne faut pas seulement regarder du côté des chrétiens évangéliques, comme on le croit trop souvent. La révolution trumpienne doit aussi beaucoup à des catholiques influents, tenant d'un courant que l'on appelle post-libéral, et soucieux de recréer une politique chrétienne autour des valeurs morales traditionnelles. Ce courant est représenté par le vice-président J.D. Vance, mais aussi par d'autres entrepreneurs proches du pouvoir actuel. Il sert de modèle pour des partis populistes en Europe, et il fascine aussi une partie des catholiques conservateurs français. Blandine Cellini, professeure à l'université d'Aix-Marseille, travaille sur ce sujet depuis plus de 20 ans. Elle raconte comment elle a pris conscience de l'évolution du catholicisme américain.
C'était en 2002. J'écoutais un discours tout à fait dithyrambique d'un homme politique républicain sur George Bush Jr., disant que c'était le président le plus catholique de l'histoire. La réflexion m'avait complètement surprise. Je me suis dit que peut-être il faudrait creuser la part des catholiques dans la transformation du parti républicain. Donc, et de fil en aiguille, j'en ai fait ma recherche d'habilitation et j'ai passé 6 ans creuser la généalogie intellectuelle de cette famille politique au sein de la droite chrétienne et ce qu'elle avait apporté petit à petit dans le débat politique américain jusqu'à aujourd'hui avoir des représentants au sein du gouvernement aussi communicants que J.D. Vance.
Je pense que les téléspectateurs voudraient en savoir plus. S'ils ne voient pas, ça va être dur à expliquer. Quand tu tournes ton cœur et ta vie vers le Christ, quand tu le reconnais comme sauveur, ça change ton cœur et ta vie.
Et quelle a été la stratégie? Parce qu'on voit aujourd'hui ces catholiques qui sont dans des postes politiques ou juridiques d'ailleurs.
Alors, dans les années 2000, ça a commencé, mais ça s'est vraiment cristallisé dans les années 2010, notamment avec l'émergence à la fois des réseaux sociaux et les think tanks en ligne. Le numérique a favorisé, pas simplement chez les catholiques, mais a favorisé l'expression religieuse plus radicale. Ils ont été soutenus aussi par des milliardaires influents, je pense notamment à Monsieur Thiel, le fondateur de PayPal, qui a beaucoup financé ces mouvements-là, et leurs différents lobbies qui sont aussi anciens, par exemple celui de la Federalist Society, un lobby du monde judiciaire, parce que la prise en compte de l'importance du système judiciaire et notamment du système fédéral, des juges fédéraux, a été un objectif de ces catholiques pour changer finalement l'esprit de la loi américaine et les interprétations que devrait faire ou qu'aurait dû faire la Cour suprême.
Il faut peut-être rappeler que c'est allé assez haut parce que aujourd'hui les catholiques sont très importants à la Cour suprême.
Alors vous avez effectivement 6 catholiques sur 9 juges de la Cour suprême. On est dans cette configuration. Est-ce que les 6 sont tous des conservateurs anti-libéraux? Alors, c'est compliqué de les déterminer comme ça, mais un certain nombre sont plutôt de cette tendance.
Le premier amendement protège la liberté d'expression, de presse, de religion, de réunion et de pétition. En garantissant la liberté de religion, cet amendement interdit au gouvernement d'instituer une religion d'État ou de favoriser une religion plus qu'une autre.
Ces catholiques contestent le fait que la Cour puisse faire des jurisprudences créatives qui n'étaient pas dans l'intention à la fois des pères fondateurs, mais dans l'esprit de la Constitution elle-même. C'est-à-dire qu'ils extrapolent. Deux exemples. Le premier, c'est le développement d'une jurisprudence laïque qui considère que l'État américain, les services publics américains doivent être neutres, et ils le sont, et il faut que la justice soit très attentive à ce qu'il n'y ait pas de confusion entre religion et politique, parce que c'est contraire à l'esprit de la séparation. Ces catholiques disent « Non, mais ça c'est votre interprétation de la séparation ». C'était pas du tout comme ça que le premier amendement a été réfléchi et conçu. Et cette laïcité à la française, cette neutralité que vous avez développée depuis les années 60, c'est pas américain. Voilà, une première idée. Et l'autre exemple, c'est l'exemple de la jurisprudence Roe de 1973. Quand les juges suprêmes ont décrété la dépénalisation de l'avortement sur la base du 14e amendement, cette interprétation-là, les juges actuels, il y a 2-3 ans, ont défait par une autre jurisprudence, la jurisprudence Roe. Ils ont argumenté le fait qu'il n'y avait aucun amendement de la Constitution américaine qui permettait d'extrapoler un droit à l'avortement.
À l'annonce de la fin du droit à l'avortement garanti dans l'ensemble des États-Unis, explosion de joie chez ces manifestants, souvent issus de la droite conservatrice et religieuse.
24 juin 2022.
La vie a gagné, chante
journal télévisé d'Antenne 2.
Des millions de vies vont être sauvées.
C'est incroyable. C'est le plus beau jour pour notre pays que j'ai vécu.
Juste à côté, les défenseurs de l'IVG, dépités. Depuis 1973, toutes les Américaines y avaient accès, partout dans le pays. Je continuerai à aider les avortements, promet cette femme.
J'ai 21 ans et je suis terrifiée.
La Cour suprême, à majorité conservatrice, n'interdit pas l'avortement, mais elle donne à chaque État la liberté de le faire. Joe Biden, qui lui défend le droit à l'IVG, ne peut s'opposer à cette décision de justice.
C'est un jour triste pour la Cour suprême et pour notre pays. Il y a 50 ans, l'arrêt baptisé Roe vs. Wade était décidé et il était en vigueur depuis. Ce texte protégeait le droit des femmes à choisir, à prendre ses décisions personnelles avec leur docteur.
Dès l'annonce de la Cour suprême, le Missouri a décrété l'interdiction de l'avortement et près de la moitié des États pourraient suivre ou au moins restreindre l'IVG à court ou moyen terme. La volonté de Dieu, salue Donald Trump. Pourtant, dans un récent sondage, environ 60% des Américains disaient soutenir l'avortement.
Voilà, donc ces catholiques, avec différentes figures, se sont eux-mêmes appelés les catholiques post-libéraux. Et je voudrais citer la Heritage Foundation, un think tank conservateur, mais qui est désormais tenu par des catholiques post-libéraux. Et la Heritage Foundation a préparé le programme de gouvernement de Donald Trump, le projet 2025.
Un des aspects centraux du projet 2025, c'est de concentrer le pouvoir dans la branche exécutive du gouvernement.
Radio-Canada.
Il propose notamment que le département de la justice et que le FBI soient contrôlés par le président, ce qui lui donnerait le pouvoir d'enquêter sur ses opposants.
Son but est de mettre fin à l'emprise idéologique des élites libérales sur le système fédéral, sur les politiques publiques fédérales, à commencer par la fin de tous les programmes d'inclusion et la mentalité, entre guillemets, « wokiste » des institutions fédérales. Donc c'est un vrai programme de changement de mentalité, pour être aimable, conçu en grande partie par des catholiques.
Selon le plan, le département de la santé et des services sociaux devrait maintenir une définition du mariage et de la famille fondée sur la Bible.
Le post-libéralisme chrétien ne vient pas de nulle part. Il est pensé par ces catholiques américains en référence à toute une tradition philosophique qui remonte à l'Europe des années 30-40. Philippe Portier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études.
Alors, ce que je verrais volontiers dans ces mouvements populistes, c'est un modèle philosophique qui est très, très inspiré par Carl Schmitt, juriste philosophe allemand, qui avait lui-même des relations avec Maurras. Alors, ce qui caractérise en effet ce mouvement maurrasiste, comme ce mouvement schmittien, c'est l'idée que les peuples sont d'abord des peuples de l'enracinement et qu'on ne peut pas défendre l'idée de nation à partir d'une conception élective, atomiste, associative de la nation. La nation se définit par la culture qui est la sienne. C'est donc un premier élément là de voir que cette nation culturelle, elle est aujourd'hui fondée sur des racines que les populismes rattachent en effet au christianisme. Alors, avec cette idée, c'est le deuxième point qui vient caractériser le populisme, que ce christianisme, il ne se déploie pas à partir de ce que l'Église ou de ce que l'Évangile viendrait dire de lui-même. C'est un christianisme qui est un christianisme culturalisé où la reconstruction d'un imaginaire national à partir d'une histoire imaginée compte bien davantage que les appels à l'espérance du Christ. Et on voit bien que dans beaucoup de pays, les populismes sont en délicatesse avec les institutions du croire. Puis le troisième élément important, c'est que le populisme se construit sur un État qui est investi d'une valeur sacrale. Un État qui est le catéchone, comme disait Carl Schmitt, reprenant une formule de Saint Paul dans son épître aux Thessaloniciens, Saint Paul disant que pour freiner le déclin de l'histoire, nous avons besoin d'un héros, et ce héros, les populismes le retrouvent dans l'État. Un État qui met en place une politique de la fermeté ad intra et une politique de la fermeture ad extra pour préserver le peuple réel dont parlait Maurras et dont parlait aussi Carl Schmitt quand il évoquait la nation culturelle.
Peut-être faudrait-il rappeler que Carl Schmitt, effectivement, est un penseur qui revient beaucoup à la mode aujourd'hui, en tout cas qui est souvent cité. Il fut un des inspirateurs du nazisme, qui a instrumentalisé en tout cas la religion pour en faire un objet de politique dictatoriale et puis raciste, etc.
Oui, c'est-à-dire que très souvent, la culture à laquelle font référence les mouvements populistes est une culture purement imaginée, mais qui vient permettre de dessiner des frontières faisant la distinction entre, d'un côté, le peuple réel et de l'autre, le peuple des élites, le peuple légal, entre, d'un côté, le peuple des autochtones et le peuple des immigrés qui viendraient perturber leur propre culture, au risque d'ailleurs du grand remplacement. Alors tout cela se trouve résolu dans la pensée des populismes par une pensée qui est une pensée de l'État fort, de l'État qui est un État de police davantage qu'un État de droit. On voit bien d'ailleurs que les populismes sont toujours critiques vis-à-vis de l'État de droit. Et puis un religieux qui se décline non pas comme l'esprit d'un monde sans esprit, pour reprendre l'expression de Marx, mais comme une culture dans un monde qu'on estime voué à la disparition du fait de son subjectivisme.
Cette idéologie populiste a trouvé aussi des débouchés en Europe, et notamment dans la Hongrie de Viktor Orban. Blandine Cellini.
Effectivement, on a un régime idéal présenté comme tel par cette famille, qui est le régime hongrois. On a au moins deux grandes figures de ce catholicisme post-libéral américain qui sont parties vivre en Hongrie. Rod Dreher, qui a écrit L'option bénédictine, qui a été un succès aux États-Unis comme en Europe d'ailleurs, expliquant qu'il fallait que les chrétiens et les catholiques notamment s'arrachent à la société américaine et fabriquent des petites communautés à la manière des moines bénédictins, très protégées de familles qui font de la résistance culturelle et spirituelle à cette société affreuse dans laquelle ils vivent. Et vous en avez un autre qui s'appelle Gladden Papin, qui vient du Middle West, qui était d'origine Osage, et donc il avait des ancêtres amérindiens, et qui, après avoir été professeur au Texas, a créé un think tank qui s'appelle Post-libéralisme, qui a beaucoup réseauté et qui maintenant a pris la nationalité hongroise, et il est le patron d'un des gros think tanks de relations internationales du gouvernement de Monsieur Orban. Et il exprime des idées politiques, la guerre contre l'inquisition gay, contre les woke et la renaissance des nations chrétiennes d'Europe.
Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ces Américains-là, qui sont quand même, il faut rappeler, minoritaires aussi aux États-Unis d'ailleurs, arrivent vraiment à avoir une influence en Europe et en France notamment?
Ils ont un porte-voix désormais qui s'appelle J.D. Vance. Il a fait un discours, ce vice-président, à Munich, devant la conférence sur la sécurité en Europe, expliquant que les Européens étaient en train de perdre leurs valeurs communes démocratiques avec les Américains, et qu'il y avait la censure de l'expression politique, la censure de l'expression religieuse, à la limite de la persécution, et le choix d'une immigration de masse imposée au peuple d'Europe. Donc, les États-Unis, depuis ce nouveau gouvernement, ont signalé leur préférence pour le candidat nationaliste aux élections roumaines. Bon, il a perdu face au candidat européen, mais leur préférence aussi pour le candidat au présidentiel polonaise qui a gagné. Donc on voit quand même qu'il y a une pression nouvelle du gouvernement américain en faveur des partis nationalistes ou extrêmes européens et qui revendiquent aussi leurs racines chrétiennes. Ça me paraît en tout cas possible que ça finisse par avoir des influences sur la France et en Europe.
15 février 2025, J.D. Vance à Munich. John Paul II, in my view,
one of the most extraordinary champions of democracy. Comme l'a dit le pape Jean-Paul II, à mon avis le plus grand champion de la démocratie, n'ayez pas peur. On ne doit pas avoir peur de nos peuples, même quand ils expriment leur désaccord avec leurs dirigeants. Merci. Dieu vous bénisse.
Il faut cependant nuancer, car tous les courants populistes en Europe ne font pas référence de manière aussi explicite que J.D. Vance aux racines chrétiennes. Olivier Roy, professeur à l'Institut universitaire de Florence.
dans le nord de l'Europe, les populistes sont moins, s'allient beaucoup moins avec les chrétiens conservateurs. Dans le sud, c'est plus complexe, parce que dans le sud, vous avez bien entendu des catholiques traditionnalistes, en Espagne, en Italie, en Grèce, vous avez les orthodoxes, etc. Mais vous avez l'Église. En Italie, c'est autre chose. D'abord, l'institution est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus enracinée socialement, et puis elle participe beaucoup plus à la vie intellectuelle, culturelle, etc. Or, l'Église est ambivalente par rapport au populisme. L'Église n'est pas de gauche, certes, mais ils ont été échaudés par, exemple, le choix qu'ils avaient plus ou moins fait de soutenir Berlusconi dans les années 90. Et ils se sont aperçus, là, que loin d'incarner un retour aux valeurs traditionnelles, on a au contraire un excès de libéralisme dans tous les sens, sur le plan économique, comme sur le plan de la liberté des mœurs, de la pornographie, et de tout ce qu'on veut. Donc cette OPA, disons, des populistes sur les religieux, ne fonctionne pas. Le dernier exemple, c'est Trump et l'élection au Vatican. Ils ont vraiment tenté de noyauter le conclave, d'acheter des cardinaux, enfin, c'est bon. Non seulement ça n'a pas marché, mais c'est l'effet inverse. Donc, l'Église, elle, ne tient pas du tout à se retrouver coincée entre le libéralisme sociétal, progressiste, de gauche, wokisme et tout ce que vous voulez, et un retour aux valeurs traditionnelles sous une forme normative, puisque c'est forcément normatif, puisqu'on sait que la population ne suit pas. Et l'Église a un autre cadre de lecture, c'est identité-universalité. C'est là que la rupture est profonde entre l'Église et les populistes. L'Église catholique refuse l'idée d'une identité chrétienne de l'Europe, au sens où l'Europe serait à la fois le berceau et le modèle du christianisme. Le socle de gravité de l'Église, c'est le Sud, maintenant. Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Respice de cielo et vide et visita vini amistam et protege eam quam plantavi dextera tua.
Il y a aussi quelqu'un d'autre en Europe qui vient des États-Unis, c'est le nouveau pape. C'est vrai que le nouveau pape Léon XIV est presque à l'opposé de ce catholicisme ultra-conservateur américain.
Effectivement, le pape, lui, appartient, j'allais dire, au catholicisme non politisé des États-Unis. Il existe, il est même très certainement majoritaire. Il a ses points d'ancrage, donc c'est un catholicisme de l'accueil, de l'engagement paroissial, c'est un catholicisme de terrain et très proche des immigrés. Pourquoi ? Parce que le catholicisme aux États-Unis, c'est une affaire d'immigrés. Chaque génération d'immigrés accueillant la suivante et organisant son installation et sa mise en réseau communautaire. Et donc ce pape représente ce catholicisme de terrain qui tricote la solidarité quotidienne.
Oui, donc on voit bien qu'on a deux catholicismes qui se font face. Finalement, ce qui les différencie, c'est effectivement leur rapport aux politiques, leur rapport à l'action dans la société.
Exactement. À un moment donné, il va falloir, de manière peut-être frontale, prendre à bras le corps la question de la politisation au nom des convictions catholiques d'une partie de la droite américaine et ses conséquences sur la démocratie. Donc c'est peut-être encore un peu tôt, mais il me semble que ce face-à-face aura lieu, peut-être un peu, si je puis me permettre une comparaison, comme ça a été le cas dans les années 20, entre le pape Pie XI et l'Action française, oui, qui s'est terminée par une condamnation.
L'Action française, c'est un mouvement politique d'extrême droite des années 30 qui a profondément marqué le catholicisme français. Denis Pelletier, historien.
L'Action française, c'est une ligue qui est fondée en 1898, dont Charles Maurras va très rapidement prendre la tête. C'est pas lui au départ qui est à la tête de l'Action française. C'est une ligue antidémocratique, antisémite, qui s'est engagée dans le combat anti-Dreyfusard, dont les origines sont très étroitement liées à l'anti-Dreyfusisme, et qui s'est renforcé en se présentant comme le rempart du catholicisme face à la République laïque. En sorte que, pendant plusieurs années, la bourgeoisie catholique, les notables, ceux qui parlent au nom du catholicisme, ont vu dans leur majorité, dans l'Action française, leur meilleure défense, y compris du côté de l'épiscopat, y compris du côté des théologiens, y compris du côté de la presse. Donc on a cette ligne. Une ligue, c'est encore une fois pas un parti politique. Mais l'Action française a été puissante. Elle a été puissante à travers sa presse, à travers ses centres de formation, à travers tous les relais qu'elle avait dans la société française. Et donc, dans l'après-guerre, l'Action française devient une vraie puissance française et européenne. À ce moment-là, le pape, Pie XI, prend peur. Prend peur parce que il y a ce sentiment que l'Action française instrumentalise le catholicisme. Et en 1926, l'Action française est condamnée par Rome. Et c'est une condamnation dont il ne faut pas sous-estimer la sévérité. Rester d'Action française exposait à l'excommunication, donc au refus de communier. Mais ce n'étaient pas des ouvriers auxquels on refusait la communion dans le diocèse de Bordeaux en 1926, c'était des grands bourgeois bordelais. Donc c'est vraiment une rupture. Si l'Action française est condamnable, c'est parce qu'elle fait passer le politique avant le religieux. Elle instrumentalise le religieux au service du politique. Et le courant de l'Action française va continuer à exister en sous-main, il va ressortir au moment de la guerre d'Algérie, du côté du combat pour l'Algérie française, et puis il va perdre à nouveau son combat, et on le voit ressortir depuis une vingtaine d'années, comme une sorte de référence plus ou moins cachée, parce qu'un peu honteuse, mais très très claire, dans toute une mobilisation, je dirais, de la droite catholique. Pas seulement de l'extrême droite catholique, mais des plus conservateurs des catholiques.
Le catholicisme français a toujours eu une composante minoritaire tournée vers l'extrême droite. Elle est revenue en force ces dernières années à la faveur du débat sur l'immigration qui marque une rupture politique dans l'orientation des catholiques. Yann Raison du Clésiou, politiste.
La question de l'immigration, je dirais que elle arrive dans l'univers catholique à partir de 2015. C'est pas du tout lié à la question de la manif pour tous. C'est à partir des régionales de 2015 qu'on voit un alignement progressif du vote des pratiquants réguliers avec les moyennes nationales dans le vote Front National. C'est une réaction à la vague d'attentats islamistes, mais c'est aussi une réaction à la guerre de Syrie, parce que beaucoup de catholiques sont confrontés à l'expérience des chrétiens d'Orient qui viennent en France, qui sont soutenus, et ceux-ci viennent souvent en France avec un discours extrêmement critique à l'égard de l'islam, voire disant aux Français « Faites attention, dans 20 ans, vous êtes dans la même situation que nous si vous ne faites rien contre l'islam. » Et ces mots ont un écho très particulier dans ces années-là, où des catholiques sont tués en tant que tels et dans des lieux de culte en France par des terroristes islamistes, que ce soit à Nice ou à Rouen. Et ça va aboutir à une construction de la figure de l'étranger identifiée aux musulmans comme une altérité radicale. C'est toujours un terroriste potentiel en raison d'une lecture très essentialiste de ce qu'est l'islam. Et donc, à partir de 2015, on va voir une sensibilité croissante à des thématiques populistes, et cela va s'exprimer par un vote plus extrémiste. Le moment clé pour moi d'expression de ce vote extrémiste, c'est l'élection présidentielle de 2022. La radicalisation au sein des catholiques pratiquants, elle ne s'illustre pas, je crois, par le vote en faveur du Rassemblement national, où les pratiquants réguliers rejoignent les moyennes nationales sans les dépasser. Mais cette radicalisation, elle s'exprime dans le vote en faveur d'Éric Zemmour, où là, le vote pratiquant régulier double les moyennes nationales. On est à 18% au premier tour en 2022. Et donc, bon, par ailleurs, si on additionne les 18% des pratiquants réguliers pour Éric Zemmour, les 21% pour Marine Le Pen, on est quasiment à 40% de vote d'extrême droite au sein des pratiquants réguliers. C'est un tournant majeur. Ça n'a jamais été vu dans la mesure où, jusqu'à présent, au sein des électorats de droite, les pratiquants réguliers étaient plutôt un pilier des modérés et de la droite de gouvernement.
Il y a effectivement une dérive conservatrice qui est évidente. Le plafond ou le mur qui séparait les catholiques pratiquants du vote Front National a été rompu. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais bon, il faut être sérieux. C'est toute l'opinion française qui évolue à ce moment-là vers la droite. Et donc, c'est tout le paysage de la République française qui est en train de se redéfinir. Et je dirais, c'est un paysage qui est mondial. C'est-à-dire la crise de la démocratie, la remise en cause de la démocratie libérale, elle est mondiale actuellement. Donc oui, le catholicisme est davantage à droite et à l'extrême droite qu'auparavant, comme la société française et comme le monde. C'est un des éléments de la crise de la démocratie qui inquiète même les historiens qui sont censés travailler et pas s'inquiéter.
Denis Pelletier.
L'Église catholique. En tout cas, les gens qui parlent officiellement au nom des catholiques, et quelquefois à leur place, sont hostiles aux politiques de la vie, aux politiques du genre, telles qu'elles se mettent en place après 68. L'émancipation sexuelle, la contraception, l'avortement sont considérés comme des symptômes d'une crise de civilisation. Et donc on n'en veut pas. Et donc on se bat contre. Et là on voit se nouer un combat qui n'a jamais cessé. Ce combat, il faut le prendre avec une perspective un peu large. Ce combat, c'est un combat sur la redéfinition partielle, au moins, des fondations anthropologiques de la République. Et le catholicisme devient un registre théorique, en quelque sorte, de mobilisation pour des gens qui ne sont pas catholiques. Vous pouvez mobiliser le catholicisme comme une culture, notre culture, contre ces politiques. Pour moi, c'est vraiment la bascule d'un combat religieux vers un combat civilisationnel. Ces catholiques-là, qui se battent pour un patrimoine de valeurs civilisationnelles, ils sont prêts à renoncer à mettre en avant le catholicisme parce que cette civilisation, au fond, elle est chrétienne. Et donc, ça vous dit à la fois que la question religieuse, en tant que religieuse, c'est-à-dire croyance pratique, est devenue moins importante dans le monde entier, mais que par contre, quand elle permet de nourrir un discours civilisationnel, elle redevient un registre de mobilisation, un registre de sens. Et depuis 2001, ça fonctionne très très bien dans un combat anti-musulman. Ce qu'on voit, ce sont de forts courants conservateurs qui se sont noués autour de la peur civilisationnelle, de la défense de la civilisation chrétienne. Voilà. François, il a opposé à ça deux encycliques absolument passionnantes. La première, c'est la plus connue, c'est Laudato Si, qui est une encyclique sur l'environnement. Hein. Et puis la deuxième, c'est Fratelli Tutti, qui pour moi est au moins aussi importante, et qui est une encyclique sur la fraternité, qui intervient au moment de la crise des migrants, et dans laquelle François dit « le migrant, mon prochain sur les frontières ». Le migrant, mon prochain sur les frontières. Ou pour le dire autrement, l'universalisme chrétien est un universalisme de la frontière. Le représentant le meilleur de l'universalisme chrétien, c'est le migrant. Et donc vous voyez comment François essaye, à partir de sa culture latino-américaine, jésuite, etc., essaye de fabriquer un contre-discours.
France Inter, 21 avril 2025.
Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir.
Et on regarde avec vous, Claude, pourquoi la mort du pape François pourrait avoir un effet déterminant dans de nombreux pays.
Oui, Christelle, car un milliard de catholiques estimés à travers la planète, c'est quand même aussi un milliard d'électeurs potentiels. Et on a vu combien la religion, les valeurs religieuses avaient joué un rôle déterminant ces dernières années dans certaines accessions au pouvoir. Le pape François a effectivement profondément remodelé le paysage de ces cardinaux qui vont, dans les jours qui viennent, élire son successeur. Il en a nommé plus de 60%. Alors, ce sont des hommes dont on peut imaginer qu'ils partagent les positions, mais ce sont quand même des positions très clivantes au sein d'une église qui est plus divisée que jamais. Or, le lobbying, eh bien, il est intense parmi ces électeurs-là. Des think tanks conservateurs aux États-Unis ou en Europe ont ainsi invité très récemment les nouveaux cardinaux asiatiques à réfléchir ensemble à la notion de famille, la notion d'identité. Et en France, les médias proches de Vincent Bolloré font, eux, campagne pour le cardinal guinéen Robert Sarah, qui est un opposant du pape François, un homme connu pour sa critique de la décadence des valeurs du monde occidental. Et ça, c'est un discours qui résonne beaucoup et qui résonne autant à Washington, Budapest, Buenos Aires ou à Moscou.
« 40% des catholiques votent donc désormais pour les partis d'extrême droite. Accompagnant ce mouvement, Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin
deux hommes d'affaires, sont devenus des financiers importants de l'Église, sans cacher leur orientation politique conservatrice et nationaliste. Yann Raison-Duclézieux, politiste.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de Bolloré, de Sterrin, de leurs initiatives, mais au début du XXIe siècle, on voit que l'initiative de Vincent Bolloré, elle tend aussi à proposer un catholicisme qu'on ne propose plus ailleurs, en soutenant par exemple France catholique, hein, qui est un titre qui date des années 20, mais aussi en développant des émissions de télé, l'émission Enquête de foi, dirigée par Émeric Pourbet, qui promeuvent un catholicisme qui a peu d'expression, on va dire, dans l'offre médiatique catholique, et qui, à la fois, et c'est en cela assez habile, touche une population catholique plutôt conservatrice et toute une population de catholiques issus de l'immigration. Très demandeurs de piété, de guérison, de dévotion au saint. Sterrin, je dirais que c'est un peu autre chose. Dans un catholicisme qui devient minoritaire, les diocèses sont, pour la plupart d'entre eux, en train de gérer leur déclin. Et par conséquent, les initiatives des laïcs, qui, eux, sont dans une dynamique de redéploiement, vont chercher, en dehors des diocèses, des ressources pour se financer et se structurer. Du côté, donc, de mécénat privé. Et le fonds du bien commun, les soirées du bien commun participent de cette levée de fonds, qui est beaucoup plus affinitaire que le denier du culte.
Le denier du culte, c'est ce que les catholiques donnent à leur paroisse régulièrement, déjà à la messe.
Quand les catholiques pratiquants donnent au denier du culte, ils donnent leur fonds au diocèse qui en fait l'usage qu'ils souhaitent. Les dynamiques catholiques, qui sont aujourd'hui du côté de ce que j'appelle le catholicisme observant, qu'on qualifie de conservateur, elle s'exprime par de nouvelles initiatives institutionnelles, la création d'écoles hors contrat, la création de patronages, par exemple. Or, ces catholiques observants, ils veulent que leurs fonds contribuent de manière prioritaire à soutenir leurs initiatives. Or, s'ils passent par le denier du culte, ils ne sont pas certains de récupérer des fonds et du soutien. Par conséquent, ils préfèrent passer par du mécénat privé, par des fondations, Fondation du bien commun, ou la Fondation Kairos, pour tout ce qui est école hors contrat, afin d'être certains que leurs investissements et leurs dons iront à des initiatives de structuration religieuse qui vont dans leur sens.
Héloïse de Neuville, journaliste au journal catholique La Croix, a enquêté sur les personnalités respectives de Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin.
Alors, je dirais que ces deux hommes d'affaires ont des systèmes totalement différents dans le monde catholique. Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui est plutôt en marge de l'Église institutionnelle et la manière qu'il a d'influencer le catholicisme, c'est vraiment plus par les médias qu'il possède. Donc évidemment, je pense au JDD, à Europe 1, à CNews évidemment. Il y a des émissions religieuses sur ses antennes et ses chaînes, mais je dirais qu'elles sont plutôt marginales. Là où le christianisme infuse, c'est plus un ton, une forme de déférence vis-à-vis du catholicisme. Voilà, on ne critique pas le catholicisme sur CNews, et en fait, il est implicitement présenté comme la colonne vertébrale de la France. Donc, de ce point de vue-là, Vincent Bolloré se place plus sur un plan méta-culturel. Pour Pierre-Édouard Sterrin, c'est complètement différent. Il met vraiment tous les moyens à travers le fonds philanthropique de la Fondation du bien commun au service de l'institution catholique. Lui, pas forcément, mais ses équipes sont proches des évêques qui comptent, des prêtres qui comptent. Ils agissent directement auprès des paroisses pour essayer de les revitaliser, de les dynamiser. Il y a un vrai projet de prosélytisme interne, c'est-à-dire d'aider les catholiques à vivre leur foi plus intensément, et à la fois un projet d'évangélisation. La grande différence entre un Vincent Bolloré et un Pierre-Édouard Sterrin, je comprends les comparaisons qui sont faites entre les deux, parce que c'est deux patrons cathos de droite qui mettent leur écosystème au service d'un projet de droite nationaliste. Ils n'ont pas du tout le même ethos, les mêmes affects. On a un Bolloré, héritier d'un catholicisme breton très enraciné, qui a une foi un peu rétro. C'est un nostalgique. C'est très charnel pour lui. Voilà. Pierre-Édouard Sterrin, c'est un futuriste qui est fasciné par l'intelligence artificielle, qui est fasciné par les ruptures technologiques. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette alliance un peu contre nature entre le libéralisme et le conservatisme est fortement inspirée de grandes figures américaines à la Musk ou à la Peter Thiel. Peter Thiel, qui est un des fondateurs de PayPal et qui est aussi un passionné de théologie, qui est le mentor du vice-président américain, qui est aussi catholique, J.D. Vance. Ça, c'est quelqu'un qui intéresse beaucoup Pierre-Édouard Sterrin.
Pierre-Édouard Sterrin est milliardaire et résident fiscal belge. Sa fortune a explosé grâce à l'entreprise Smartbox qu'il a créée. C'est aussi un fervent catholique. Il finance grâce à sa fortune un fonds du bien commun qui soutient aujourd'hui toute une série d'initiatives catholiques en France. L'entrepreneur a refusé de nous recevoir. Mais son bras droit, Guilain Lafond, président du Fonds du bien commun, a accepté de nous éclairer sur son fonctionnement.
Le Fonds du bien commun, c'est un fonds de dotation qui est donc apolitique et areligieux, qui a été créé en octobre 2021 par un monsieur qui s'appelle Pierre-Édouard Sterrin et qui a l'ambition d'impacter sur un certain nombre de sujets. Il y en a quatre essentiellement, sont les sujets autour de l'éducation, autour de la famille et de la solidarité, autour de la culture et du patrimoine, et puis tout ce qui concerne la croissance humaine de la personne avec un H majuscule. Voilà. Et c'est finalement, cela fait quatre départements dans ce fonds, qui a donc également une double activité, une activité de philanthropie et une activité économique, c'est-à-dire de prise de participation, de prêts, d'emprunts, de prise de participation en capital dans des entreprises qui, évidemment, s'occupent des quatre secteurs en question.
C'est un fonds qui est doté de combien, alors ?
Donc, aujourd'hui, il dote le fonds du bien commun de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. La première année, il y a eu 40 millions d'euros qui ont été affectés. La deuxième année, il y en a grosso modo une trentaine. Et là, on est sur grosso modo une trentaine ou une quarantaine de millions, ce qui est déjà considérable. Considérable.
C'est énorme, surtout dans un paysage catholique qui est beaucoup en recherche d'argent aujourd'hui.
C'est énorme, c'est très important et c'est pour ça que tout cet argent doit être convenablement prêté et convenablement investi. Un des points très importants de Pierre-Édouard Sterrin, c'est la mesure de l'impact. Ce qui est d'ailleurs normal parce que c'est un donateur, il a fait fortune. Il veut pas dispenser son argent sans s'assurer que cet argent est bien affecté comme il faut et au bon endroit.
France 3, 23 juillet 2025.
À la une, en Sologne, le futur internat privé catholique réservé aux garçons et financé par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin divise la classe politique. Il s'agit du projet de l'Académie Saint-Louis de Chalais, situé à Nouhans-le-Fuselier, dont l'ouverture a été autorisée par la préfecture et le rectorat. Une décision juste pour le RN, tandis qu'à gauche, on dénonce un établissement intégriste. Explication de Romain Delville.
L'Académie Saint-Louis de Chalais devrait accueillir une petite centaine de garçons de la 6e à la 3e à la rentrée 2025.
Pierre-Édouard Sterrin, lui, y part des faits. Lorsque le fonds a été créé en 2021, il a demandé sur les quatre axes, sur les quatre départements, de faire finalement une sorte d'état des lieux. Et là, il y a quatre documents qui sont sortis, qui sont tout à fait remarquables sur le constat. Une fois que le constat est posé, et ça c'est toute la démarche de l'entrepreneur qu'est Pierre-Édouard Sterrin, il a mis en place un certain nombre de stratégies pour répondre au constat. Et je repars sur l'éducation. Tout le monde sait que l'éducation, on n'est quand même pas complètement au top. Il part du constat que ça fonctionne pas. Et il dit, on va mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de répondre et surtout d'augmenter le niveau de connaissance de nos élèves et de nos étudiants. J'ai envie de lancer une chaîne d'internat sur le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire cours le matin, l'après-midi sport, théâtre, etc., avec des maisonnées, des chefs de maison, enfin, le collège anglais transporté ou transféré dans le système français. Voilà, ça c'est tout à fait typique. Alors, c'est évidemment très audacieux, c'est très compliqué, parce que un des points clés, c'est que le fonds du bien commun ne va jamais arriver en conquérant quelque part. Sur l'éducation, de toute façon, on passe par le préfet, on passe par le rectorat. Et comme les faits et les chiffres sont têtus, vous voyez, par exemple, sur ce premier collège qui va ouvrir à la rentrée là, de septembre prochain, il y a déjà des inscrits, il y a pratiquement tous les professeurs qui sont là, parce que les choses se passent selon un bon tempo.
Est-ce que les œuvres qu'il soutient, d'abord, est-ce qu'elles sont nombreuses? Est-ce que, du coup, ça lui donne une vraie puissance? Et est-ce que ces œuvres vont aussi dans le sens de ce christianisme-là?
Alors, le Fonds du bien commun agit sur plusieurs plans, notamment sur le plan de l'éducation, où il va financer des internats catholiques hors contrat, par exemple.
Héloïse de Neuville.
Mais également des patronages, qui sont en fait des centres aérés catholiques qui sont gérés par les paroisses. Il y a également tout un volet de soutien à la famille chrétienne. Il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ce qu'ils appellent la conjugalité durable, le soutien aux couples chrétiens. Il y a la création de médias également. Alors, c'est pas des gros médias. Il a essayé de racheter Pierre-Édouard Therin des gros médias. Pour l'instant, il s'est plutôt cassé les dents. Alors, il crée des petites choses, des médias digitaux comme Lou Média, Maman Vogue, qui là aussi promeuvent une forme de vie chrétienne assez classique, qui promeut par exemple la parentalité. Mais il y a aussi tout un volet patrimoine, avec de l'argent qui est dévolu à la restauration des églises, du petit patrimoine chrétien dans les campagnes, on pense au calvaire sur les routes. Il y a également tout un volet de contenu grand public chrétien, beaucoup à destination des enfants, des dessins animés chrétiens, des BD chrétiennes, de la musique chrétienne. Enfin, il y a tout un volet qui concerne le début et la fin de la vie, des aides à des associations qui accueillent les femmes enceintes, etc. Ça rejoint les convictions de Pierre-Édouard Therin sur son opposition à l'avortement. Et également de nombreux EHPAD chrétiens qui sont créés. Et là aussi, ça rejoint ses convictions, puisqu'il il s'est dit opposé à la loi sur l'aide à mourir qui a récemment été dans le débat. Le grand souci de Pierre-Édouard Therin, c'est la transmission. C'est-à-dire que son diagnostic, c'est qu'il y a eu une rupture de la chaîne de transmission dans le christianisme français, qu'aujourd'hui, les enfants de ceux qui ont été élevés dans les années 60-70 ne vont plus à la messe. Et lui nous a dit, quand on l'a rencontré à la Croix, l'Église est une boîte en chute libre. Alors là, on reconnaît bien son vocable d'entrepreneur, d'homme d'affaires. En 50 ans, on est passé de 40% de personnes qui vont à la messe à 2%. Et ben moi, je veux repasser de 2% à 40%. Et donc, il se concentre vraiment sur cette question de transmission. Donc, une attention à tout ce qui peut favoriser la famille, l'enracinement, le patrimoine, essayer de restaurer un peu les repères et les portes temporelles qui permettent à des chrétiens de culture de se remettre dans une pratique plus assidue. Par ailleurs, ce qu'on peut remarquer en creux, c'est qu'il n'y a pas de valorisation d'un catholicisme social dit de gauche, d'autant que Pierre-Édouard Therin n'est pas un idéologue. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup lu, il a besoin d'être entraîné. Ce qu'il dit, c'est qu'il a du mal à vivre sa propre vie intérieure, mais que la religion est très importante pour lui en ce qu'elle lui permet d'avoir un cadre clair sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Il est très obsédé par la question du salut. Est-ce qu'il ira au paradis ou en enfer? Il a une vision très entrepreneuriale de son salut, parce qu'il n'hésite pas à dire que les œuvres qu'il fait aujourd'hui c'est pour maximiser ses chances d'aller au paradis. Donc, c'est assez étonnant, mais c'est sérieux pour lui.
Le paradis, c'est quoi ? Pour un chrétien, le paradis, c'est retrouver Jésus.
Le frère Paul-Adrien Dardemar, religieux dominicain et influenceur catholique sur YouTube.
Mais on a bien vu qu'il n'y avait pas que des chrétiens sur Terre. On n'est pas totalement cons non plus. Il y a les musulmans, il y a les athées, il y a les païens. Alors les païens, c'est un vieux mot pour vous désigner ceux qui n'étaient pas chrétiens pendant la Rome antique. Du coup, toutes ces personnes-là, eh ben, après la mort, elles vont où ? Et ça, c'est vraiment la question à 100 points. Donc on reprend la Bible et cette fois-ci, on regarde à Romains 2, 14. C'est le texte de référence sur cette question-là. Et d'après ce texte, il y a trois conditions. Première condition, si vous ignorez l'évangile pour des raisons objectives, qui ne dépendent pas de vous. Deux, si vous cherchez la vérité de tout votre cœur. Et trois, si jamais sur les choses importantes, vous suivez la voie de votre conscience. Trois conditions, si jamais vous faites tout ça, Dieu ne vous prive pas des moyens du salut. Mais ça ne veut pas dire que automatiquement vous allez au paradis. Pas non plus exagéré, on ne sait pas. D'ailleurs, pour moi non plus, je ne sais pas. Après, ça se passe entre vous, votre conscience et Dieu. Je ne suis pas non plus en train de dire, bon, bah, très bien, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, on fout la paix à tout le monde et puis chacun vit sa vie. Non, parce qu'en fait, aller au paradis, c'est dur, c'est compliqué. Jésus vous dit qu'en fait, aux hommes, c'est impossible. Ils ont besoin de l'aide de Dieu.
Pierre-Édouard Stérin, comme Vincent Bolloré, arrive dans une église qui a peu d'argent, surtout après les scandales des abus sexuels. Une église à bout de souffle. Dans ce contexte, il représente une manne inespérée, mais cela peut poser la question de l'indépendance de l'église catholique vis-à-vis de ses milliardaires conservateurs. Héloïse de Neuville.
Il n'y a aucun diocèse en France qui, aujourd'hui, concrètement, vit de l'argent de Pierre-Édouard Stérin. L'Église est indépendante financièrement. Ensuite, moi, ce que j'ai pu observer quand je travaillais sur Pierre-Édouard Stérin, c'est que personne ne parle. Les évêques en off vous disent on est un peu inquiet. On les voit débarquer dans les diocèses pour tel ou tel projet. Puis on n'est pas sûr que ça soit toujours hyper ajusté. Mais je dis, mais ça, vous ne voudriez pas le dire en on, comme on dit dans le journalisme, c'est-à-dire, je peux vous citer, je peux citer votre nom. Ah non, non. Et en fait, il y a quand même une grande recomposition féodale en cours. Et Pierre-Édouard Stérin, par certains aspects, je ne sais pas si c'est son but, je ne lui prête pas d'intention, mais c'est un peu le parrain.
Le constat aujourd'hui dans l'Église catholique, c'est qu'on le veuille ou non, il y a un problème de manque de moyens.
Guilain Lafond.
Et donc, il y a un problème de pérennité. Donc, j'ai envie de dire, commençons déjà à aider l'Église catholique sur ses problématiques à elle. Mais, je veux dire, catholique, ça veut dire universel. Donc, il y a une volonté de faire en sorte que, voilà, notre pays au sens large, par ses quatre axes, sorte par le haut. Pas tout de suite, ça ne sera pas l'année prochaine. Ça sera en 2030, en 2035 et en 2050.
Moi, je pense qu'il y a une forme de cohérence assez forte qui s'appuie sur un diagnostic assez décliniste de la France, à savoir une forme de déliquescence généralisée qui va du niveau scolaire à la dégradation des comptes publics jusqu'à la déchristianisation. En fait, il lit tout ça. Et donc, les actions qu'il va financer sont toutes orientées vers une obsession, le redressement.
On arrive à ce qui fait toute l'ambiguïté de Pierre-Édouard Stérin. L'entrepreneur ne cache pas, à travers ses œuvres caritatives, sa vision politique pour la France. À côté du Fonds du bien commun, qui finance des actions catholiques, il pilote, à travers son propre fonds d'investissement familial Ossium, un projet politique baptisé Périclès. Périclès, c'est l'acronyme de patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. Le but est explicite. Périclès, lit-on sur le site, vise à, je cite, « faire se lever une élite avec toutes les forces de droite ». Son bras droit, le directeur d'Ossium, François Durvire, conseille le Rassemblement national. Pierre-Édouard Sterrin, lui, a toujours nié appartenir au Rassemblement national. Il se dit plus proche d'un homme de la droite conservatrice républicaine comme Bruno Retailleau. Mais l'idée de Pierre-Édouard Sterrin, comme d'ailleurs de Vincent Bolloré, est de rassembler la droite avec l'extrême droite, cette fameuse « droite hors les murs », comme on l'appelle, pour instaurer un nouveau régime en France. La question n'est pas de reprocher au milliardaire ses opinions politiques qui le regardent. Le Fonds du bien commun et Périclès sont après tout deux instruments différents. Mais dans quelle mesure actions caritatives et stratégies politiques peuvent-elles rester longtemps séparées? Car dans les deux cas, la stratégie visée, le redressement de la France, est bien la même.
Pour moi, ce qui est le plus questionnant, c'est que ça vient entacher la crédibilité spirituelle du projet de Pierre-Édouard Sterrin. C'est-à-dire, beaucoup de personnes se posent la question, légitimement, de se dire « Alors en fait, c'était ça. Il est en train de créer un christianisme Sterrin compatible. » Et quand je dis Sterrin compatible, c'est-à-dire un christianisme qui s'accommode de sa vision libérale et conservatrice. Je pense que les choses vont avoir de plus en plus de mal à se distinguer plus la présidentielle va avancer. Et je pense aussi que ça peut créer du tort à l'Église catholique que d'être profondément associé à un projet électoral et politique libéral, conservateur. Parce que la grande crédibilité de l'Église catholique repose sur sa pluralité, ce qui montre qu'elle n'est pas une secte. Disons que c'est un jeu dangereux.
Les médias de Vincent Bolloré plaident aussi dans le sens d'un rapprochement de droite et d'extrême droite. Si on pense à CNews ou à Europe 1.
Dans ces chaînes-là, il n'y a pas de tabou sur ce qu'eux appellent l'union des droites. Il faut les écouter parler. Le syntagme qui est utilisé, c'est la droite nationale. Et ça recouvre des partis qui, jadis, juraient qu'ils ne s'associeraient jamais avec le Rassemblement national. Aujourd'hui, beaucoup de digues ont sauté, mais pas toutes encore. Et il y a quand même des catholiques qui sont gênés, en fait, de leur association étroite avec des projets qui visent à faire sauter les digues entre différents camps politiques.
Denis Pelletier.
Vous avez eu des patrons catholiques dans les années 30 qui soutenaient les ligues d'extrême droite, notamment Coty. Ça avait disparu. C'est une chose qui est en train de revenir actuellement.
Alors, eux parlent d'un gramscisme de droite, c'est-à-dire une manière d'influencer la France avec des intellectuels, des blogs, des télévisions, des journaux, voilà. Il y a toute une offensive culturelle.
Pauvre Gramsci. Gramsci est revenu à la mode, et il est revenu à la mode à partir d'une lecture de droite. Quand on parle de Gramsci, on parle de ce que Gramsci appelait la guerre culturelle. Occuper le terrain de la culture, occuper le terrain des idées. Saturer le terrain des idées. Ce qu'on peut faire aujourd'hui sans être majoritaire, à condition de maîtriser un certain nombre de lieux de circulation du débat. Et les réseaux sociaux occupent une place essentielle dans cette affaire-là. Et ça, c'est la récupération, effectivement, de Gramsci. C'est un Gramsci relu avec Charles Maurras, en quelque sorte.
C'était le Laboratoire américain avec Blandine Chélini-Pont, Philippe Portier, Olivier Roy, Denis Pelletier, Yann Raison-Luclesiou, Héloïse Deneville et Guylain Lafont. Documentation Ina Marie-Sophie Guillet de la Brosse. Prise de son Julien Douminc, Manon Houssin, Antoine Viossa, Claire Levasseur. Mixage Manuel Couturier. Chargée de programme Anaï Morales et Marie-Vonne Abolivier. Coordination Emmanuel Laurentin. Réalisation Anne Fleury. Catholique de France, La Tentation Radicale. Un documentaire d'Isabelle de Gomin.